Monsieur Messoua, Messoua Augustin, bonjour.
Bonjour, cher frère.
Avez-vous des explications sur la recrudescence des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire?
Merci. Je voudrais, avant tout propos, vraiment vous remercier au nom de monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour l'opportunité que vous donnez une fois encore de nous exprimer sur un thème qui vraiment porte un intérêt particulier pour la population. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Ces incidents arrivent simplement parce que les différents maîtres d'ouvrage qui construisent, qui initient des projets, ne respectent pas la réglementation en vigueur en matière de construction. La loi fait obligation aux maîtres d'ouvrage de recourir à un professionnel, notamment un architecte, quand on veut construire. C'est ce qui n'est pas fait. Et quand on n'est pas professionnel et qu'on veut faire soi-même, on arrive à ces situations, n'est-ce pas, à des incidents avec tout ce que nous connaissons comme corollaire de pertes en vie humaine, de blessés, de dégâts matériels importants.
De quel dispositif disposez-vous pour anticiper ou prévenir sur ce type d'incident qui fait malheureusement des victimes?
Alors, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de précautions qui ont été prises sous la houlette du ministre Bruno Abagnoconé. La première action que nous avons posée, c'était de renforcer le cadre légal, de prendre des dispositions réglementaires, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'éviter ce genre d'incident. Donc il y a la loi portant au cours de la construction de l'habitat qui a été prise, il y a la loi sur la profession d'architecte, il y a le décret sur le permis de construire. On a même procédé à la modification du décret qui a créé le guichet unique du permis de construire pour mettre en place la plateforme collaborative de contrôle de construction, puisque nous avons mutualisé nos efforts en la matière avec le district, les communes et les ministères techniques que sont le ministère de l'assainissement et le ministère de la construction. Nous avons également renforcé les sanctions en la matière. Aujourd'hui, il y a des amendes administratives, il y a des démolitions partielles et totales, et il y a des peines privatives de liberté. Donc nous avons pris toutes ces dispositions-là, n'est-ce pas, pour amener les maîtres d'ouvrage vraiment à respecter le processus légal de construction. En 2020, nous avons fait une démolition. En 2021, 56 démolitions. En 2022, nous sommes à 150, environ 160 démolitions.
C'est beaucoup quand même.
Oui, mais nous le faisons à notre compte défendant. Le rôle du ministère de la Construction, ce n'est pas de déconstruire. Pour ne pas dire, ce n'est pas de démolir. Mais nous n'avons pas le choix.
Est-ce que le ministère n'a pas une part de responsabilité en ce qui concerne l'attribution des permis de construire?
Non, je dirais non. Nous n'avons pas de part de responsabilité. Je pense que la responsabilité première appartient au maître d'ouvrage. Celui qui initie le projet, celui qui apporte le budget. Et la loi l'astreint à faire recours aux professionnels pour que son bâtiment soit stable, pour garantir la sécurité vraiment de nos populations. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous, en tant qu'administration, nous avons pour mission de veiller au respect de la réglementation. C'est pour ça que nous faisons un type de contrôle qu'on appelle le contrôle administratif. Mais là également, quand un agent n'a pas fait sa part de travail, monsieur le ministre n'hésite pas, les agents sont révoqués, ils sont sanctionnés. Voilà. Nous avons fait un zoning au niveau du district d'Abidjan. Donc, chaque responsable de contrôle est mis devant ses responsabilités. S'il y a un incident qu'il a avéré que cet agent contrôleur n'a pas fait sa mission avec professionnalisme, naturellement, il est sanctionné.
On va parler sans tabou, se poser les questions qu'il faut pour amener nos auditeurs à comprendre le rôle joué par votre ministère. Donc, je vais vous demander de revenir sur le comment vous attribuez les permis de construire.
Pour la délivrance du permis de construire, d'abord, je voudrais dire que nous avons créé le guichet unique du permis de construire. Parce que par le passé, les différents acteurs qui intervenaient dans le process étaient éparpillés. Donc, le maire d'ouvrage qui fait la demande de permis de construire ou l'architecte qui fait la demande de permis de construire pour le compte de son client est obligé de faire le tour de ces différents acteurs. Donc, naturellement, le process était long et ça engendrait plus de coûts. Le guichet unique a été créé pour mettre l'ensemble des acteurs sur le même site. Et il y a un directeur de ce guichet qui est chargé de la coordination de l'ensemble des activités. Ça nous a permis de comprimer les coûts, de comprimer les délais, et donc, n'est-ce pas, de délivrer le permis de construire dans un délai relativement plus court. Donc, nous avons facilité la délivrance de cet outil important qu'est le permis de construire. Parce que la loi fait obligation à tout maître d'ouvrage qui veut construire de disposer préalablement d'un permis de construire qui permet, n'est-ce pas, de garantir la qualité du bâti.
Monsieur le directeur, vous avez parlé de démolition de plus de 100 maisons. Est-ce que ce chiffre n'est pas exorbitant?
Non, depuis 165 démolitions en 2022.
165 démolitions.
Pendant que nous avons fait une seule démolition en 2020.
Alors, quand on entend ce chiffre, ça fait chaud dans le dos, monsieur le DG. Comment appréciez-vous cela en tant qu'architecte?
Oui, nous n'avons pas le choix. Je l'ai dit. Notre mission, ce n'est pas de démolir. Mais si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus d'accidents sur le chantier. Puisque nous sommes obligés de démolir tous ceux qui, n'est-ce pas, construisent de l'illégalité, qui interviennent dans l'anarchie. Construire,
ce n'est pas un acte banal.
Tout à fait.
C'est une affaire de professionnel. Quand on est malade, on va à l'hôpital, on est reçu par un infirmier ou un médecin. Quand c'est complexe, le médecin peut vous recommander de voir un spécialiste, un cardiologue, un gynécologue, etc., etc. Mais c'est pratiquement la même chose dans le domaine de la construction. Vous voulez construire, la loi vous fait obligation de recourir à un architecte.
Mais justement, en faisant recours à un architecte, comme vous le dites, vous avez créé un guichet unique où tout a été centralisé. Pourquoi ne demandez-vous pas à ce monsieur qui veut construire sa maison de venir avec les preuves de ce qu'il a consulté un architecte avant de lui délivrer son permis de construire?
Pour délivrer le permis de construire, il n'y a pas d'architecte naturellement, vous ne pouvez pas faire la demande. Parce qu'il y a un dossier qui est monté. Et au niveau du dossier, nous vérifions qu'effectivement, il y a un architecte qui a construit le projet. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que la plupart des incidents auxquels on assiste sont des incidents pour lesquels les maîtres d'ouvrage opèrent en toute illégalité. Il n'y a pas de permis de construire, ils ne font pas de recours professionnel, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, quand on fait au recours professionnel, il n'y a pas de problème. Vous faites recours à un architecte, il y a un contrat en bonne et due forme qui lie l'architecte au maître d'ouvrage. Et cet architecte, en fonction de la complexité ou de la spécificité de votre projet, va faire appel à d'autres professionnels, notamment les études béton, les études du sol, la notice de sécurité, etc., pour garantir la stabilité de votre projet.
Je rappelle que vous êtes architecte de formation, vous-même. Raison de plus pour qu'on se parle sans faux fuyant sur la fiabilité du matériel de construction. À qui incombe le contrôle qualité?
Quand on construit, le premier acteur professionnel, d'abord, décrit brièvement le process. L'administration est un acteur, premier acteur. L'administration est chargée de la délivrance des différents actes, le titre de propriété, le permis de construire, le certificat de conformité. Et c'est l'administration qui est chargée de veiller au respect de la réglementation à travers le contrôle administratif qui est fait sur le terrain par nos agents. Voilà le premier acteur. Le deuxième acteur est un acteur professionnel, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui va concevoir votre bâtiment. Parce que l'architecte va prendre en compte un certain nombre de paramètres pour que votre bâtiment soit fonctionnel, pour qu'il y ait un minimum de confort, pour que le bâtiment procure un confort visuel, il parle d'esthétique, etc., etc. Quand l'architecte est fini, il y a un bureau d'études qui va faire ce qu'on appelle les études béton, les calculs de structure, etc. Lui, quand il a fini, il y a une entreprise qu'on appelle le constructeur, naturellement, qui va exécuter les travaux. Mais cette entreprise n'exécute pas les travaux n'importe comment. Il y a un bureau de contrôle qui est chargé de suivre ce que le constructeur fait pour s'assurer que la mise en œuvre se fait dans les règles de l'art. Et ce bureau de contrôle joue un rôle très, très, très important. Le bureau de contrôle va valider tous les plans et toutes les études qui ont été élaborées. Il va prendre des dispositions avec l'entreprise pour sécuriser le voisinage du chantier. Et même les agents qui sont à la tâche, qui travaillent sur le chantier pour ne pas qu'il y ait vraiment des incidents. Il va prendre des précautions avec les laboratoires pour s'assurer que les matériaux de construction, le fer, le gravier, etc., etc. sont de bonne qualité.
Aujourd'hui, la qualité du fer est de plus en plus décriée. Est-ce que votre ministère en a connaissance?
Si, nous avons connaissance, ce n'est pas le fer seulement. Il y a beaucoup de matériaux qui sont de mauvaise qualité, qui sont vendus sur le marché. Nous sommes conscients. C'est l'une des causes vraiment de l'écoulement des bâtiments auxquels on assiste. Mais je viens de parler de l'acteur, qui est le contrôle, le bureau de contrôle.
De contrôle, oui.
Si le process est respecté et qu'un bureau de contrôle intervient, il a pour mission de veiller à ce que tous les matériaux qui sont de mauvaise qualité ne soient pas utilisés, ne soient pas mis en œuvre.
Comment vérifiez-vous donc la qualité du fer?
C'est les laboratoires qui le font. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui exécute va à travers le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle va demander à un laboratoire de venir et faire des prélèvements. Ou bien une
certifier la qualité.
Va tester. Il va faire des pour certifier la qualité des matériaux avant leur utilisation.
D'accord.
Mais quand vous construisez dans l'anarchie et qu'il n'y a pas de professionnel, donc naturellement, il n'y aura pas de bureau de contrôle, il n'y aura pas de laboratoire pour faire le test sur les différents matériaux qui sont utilisés.
Assez de risques.
Et voilà, il y a un risque d'effondrement. Vous perdez votre investissement. C'est un coup moral parce qu'il y a des blessés, il y a des pertes en vie humaine. Et en même temps, vous courez le risque vraiment d'aller en prison. Peine privative de liberté.
Comme c'est le cas aujourd'hui en Turquie.
En Turquie, voilà.
Malgré les sanctions, le phénomène perdure. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, dissuader d'éventuels fraudeurs? Autrement dit, prévoyez-vous des mesures plus corsées?
Bon, nous sommes dans une dynamique de communication, de sensibilisation. Parce que pour nous, il est important de donner l'information à la population. Il est important que la population aujourd'hui comprenne la nécessité de faire recours aux différents professionnels vraiment pour construire. Quand vous faites recours à des professionnels, s'il y a un incident, en tant que maître d'ouvrage, vous n'avez pas de problème. Parce que c'est les différents professionnels qui sont intervenus qui vont répondre. Une enquête sera diligentée, l'enquête va situer les responsabilités et le mis en cause va répondre. Et un autre avantage important, c'est que quand vous prenez ces professionnels derrière des assurances, donc quand il y a un incident, l'assurance est obligé d'indemniser. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais c'est très, très important.
Très important.
Mais nous sensibilisons, mais nous allons poursuivre au niveau des sanctions. Okay. Parce que c'est vrai, une fois que nous, on communique, on demande à la population vraiment de respecter la réglementation. Mais si il y a des maîtres d'ouvrage qui veulent passer entre les mailles pour des questions d'économie, mais nous, nous ne pouvons pas accepter parce qu'il y a la vie vraiment de nos concitoyens. Donc, nous allons poursuivre dans les démolitions, dans les sanctions. Nous allons être de plus en plus fermes vis-à-vis de tous ceux qui s'avisent et vraiment à construire, à consolider ce désordre-là. Et à côté, donc, continuons la sensibilisation, faisons les caravanes de la paix. À chaque fois que l'opportunité se présente, monsieur le ministre, à chaque fois qu'il y a une opportunité, il n'hésite pas à interpeller la population sur vraiment ces questions-là. Et nous, ses collaborateurs, nous faisons la même chose. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que vraiment on sanctionne. Donc vraiment, ça sera les amendes administratives, les démolitions et les peines privatives de liberté. C'est-à-dire qu'il faut mettre chaque acteur devant sa responsabilité.
Avant de terminer avec ce chapitre, pouvez-vous faire un résumé sur les conditions à remplir avant de bâtir une maison?
Le process est simple. Quand vous voulez construire, vous devez disposer d'une parcelle, d'un terrain. Et le lien entre vous et la parcelle, c'est un titre de propriété. C'est le titre de propriété qui va faire de vous un propriétaire de la parcelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'ACD, l'arrêté de concession définitive.
On en parlera.
Une fois que vous êtes propriétaire du terrain, vous allez au guichet unique du permis de construire. On vous met à la disposition toutes les informations. Ou bien pour faire simple, vous pouvez déjà même contracter avec un architecte et puis lui confier toute cette mission. L'architecte va vous accompagner dans la délivrance de l'obtention du permis de construire. L'architecte va vous donner les conseils nécessaires. L'architecte va faire recours aux autres professionnels qui doivent vous accompagner dans le cadre du projet selon sa complexité ou ses spécificités, etc. etc. Et le projet sera mis en œuvre pour le bonheur de tout le monde.
Okay.
Surtout même pour le maire d'ouvrage. Parce que vous apportez votre financement, ce n'est pas pour que votre bâtiment s'écroule demain. Parce que quand le bâtiment s'écroule, vous perdez votre investissement. Et quand le bâtiment est construit par des professionnels, ce bâtiment, il est durable, ce bâtiment, il est beau. Et ce bâtiment, demain, si vous voulez le vendre, vous pouvez le vendre plus cher. Pourquoi? Parce qu'il a été construit par des professionnels. Quand on regarde l'exécution des travaux, vraiment, on est content de la manière dont le bâtiment vraiment a été construit. Et on respecte la qualité de l'environnement. Parce que ça aussi, il faut le dire, quand on construit dans l'anarchie, on porte un coup à la qualité de l'environnement. Le permis de construire permet à l'administration de contrôler la mise en valeur des terrains urbains. Parce qu'il y a des normes architecturales, les normes d'urbanisme, les normes d'hygiène, les normes d'assainissement, etc., etc. Donc quand vous faites le permis de construire, c'est pour aboutir à ça. Pour faire court, si vous voulez construire, faites recours à un architecte. Et l'architecte qui est qualifié, qui est compétent, qui a fait une formation, va vous accompagner tout au long du process, du début jusqu'à la fin. Parce que lui, il est sachant.
Abordons bien évidemment cette question relative à l'acquisition des ACD et leurs complications. Quelle solution?
Bon, aujourd'hui, je pense qu'au niveau des ACD, il y a des réformes importantes qui sont en cours et qui vont vraiment permettre vraiment de sécuriser davantage ce acte et en même temps de le délivrer dans un délai plus court. Donc, il y a toute la chaîne est en train d'être digitalisée, puisqu'il faut dire que l'ACD est traité par deux ministères techniques. Il y a le ministère de la Construction qui initie. Après, le ministère du Budget prend le relais à travers le cadastre et la conservation foncière, qui font donc le bonheur contradictoire et la création du titre. Après quoi, le dossier revient chez nous pour que le ministre prenne l'ACD ou si c'est à l'intérieur que la superficie n'atteint pas un hectare, 10 000 mètres carrés, c'est le préfet qui est compétent pour signer cet arrêté-là. Donc voilà, il y a une réforme importante qui est en cours et qui va permettre, n'est-ce pas, de comprimer davantage le délai de délivrance vraiment de l'ACD. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés et sous la houlette du ministre Bruno, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens pour faciliter la tâche aux différents usagers.
Il y a aussi la problématique des lotissements objets de sursis à délivrance d'actes administratifs. Ce sont des lotissements dans les communes de Benjerville, Songon, Jacquesville, Cocody, Yopougon, Grand Bassam, Malépé et Yamsoukro. De quoi est-ce qu'il est question?
Ici, pour vous donner une réponse simple, c'est que souvent il y a des difficultés au niveau du foncier. Et il peut arriver qu'il y ait un sursis, un lotissement. Donc, quand il y a un sursis, il faut que le contentieux soit vidé avant qu'on ne délivre vraiment les différents ACD. C'est des questions de litige. Et quand il y a un litige, il faut que le litige soit vidé. Il faut que la question soit traitée. Pendant qu'il y a le litige et que le dossier est pendant en justice, on ne peut pas continuer d'aggraver la situation en délivrant des actes sur le site incriminé. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas de litige, le lotissement approuvé, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de dossier pendant devant les juridictions compétentes, à ce moment, il n'y a pas de problème. Le procès est là. Vous pouvez faire votre demande d'ACD et puis c'est traité par les différentes administrations. Mais quand il y a un litige et que le dossier est pendant devant la juridiction, il y a un souci sur le lotissement en question, nous sommes obligés d'attendre que la question soit définitivement réglée avant de procéder aux délivrances des différents ACD sur ce lotissement incriminé.
Il y a également cette question des promoteurs immobiliers. Les réseaux sociaux sont inondés par des opérateurs immobiliers. Est-ce que tous ces promoteurs immobiliers détiennent des agréments auprès de votre ministère? J'en parle parce que beaucoup de personnes se sont fait gruger par ces promoteurs immobiliers qui certainement avaient tous ces agréments dont vous parlez, mais qui hélas n'ont pas pu rentrer en possession de leurs biens. On se dirige vers des promoteurs en nous disant que ceux-ci sont une garantie. Qu'est-ce que le ministère peut faire pour aider ces personnes qui mettent toute une économie dans la acquisition d'une maison auprès d'un opérateur immobilier?
Oui, aujourd'hui, pour faire la promotion immobilière, il faut l'agrément promoteur immobilier. Une fois que vous avez l'agrément promoteur immobilier, votre programme, lui aussi, doit faire l'objet d'une approbation. Donc, il y a l'agrément du promoteur et puis il y a l'agrément du programme. Si vous n'êtes pas promoteur agréé, vous ne pouvez pas faire agréer un programme. Donc, si vous initiez des programmes, vous les initiez dans l'illégalité totale. Et là encore, nous avons des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont chargés du contrôle vraiment de toutes les promotions immobilières, n'est-ce pas, qui construisent vraiment sur le terrain. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Il faut avoir l'agrément promoteur et puis l'agrément programme pour être vraiment pour exercer dans la légalité. Mais celui qui n'a pas l'agrément, même si vous l'avez l'agrément et que le programme n'est pas approuvé, vous tombez sur le coup de la loi. Okay. Donc il faut les deux. Il faut être un promoteur agréé. Il faut que le programme également soit agréé. Si ce n'est pas le cas, les agents qui sont sur le terrain doivent faire arrêter les travaux que vous initiez sur le terrain.
Avant de terminer avec ce chapitre, pouvez-vous faire un résumé sur les conditions à remplir avant de bâtir une maison?
Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le promoteur est agréé. Donc, il faut prendre l'information auprès du ministère de la Construction. C'est nous qui agréons les promoteurs. Donc, nous avons la liste des promoteurs agréés et c'est nous qui agréons les programmes immobiliers. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que le promoteur est agréé et que son programme est agréé. Donc, s'il est agréé et que son programme est agréé, ça veut dire que c'est un promoteur qui est connu de l'administration. Donc, ce promoteur-là, il peut être sanctionné par l'administration. Donc, le risque est minimisé à ce niveau-là parce qu'il est suivi. Mais si vous êtes dans un programme d'un promoteur qui n'est pas connu, d'un promoteur qui exerce dans l'illégalité, vous voyez que le risque, à ce moment-là, nous n'avons pas d'informations sur ce promoteur et donc pour le sanctionner, ce n'est pas évident. Voilà la réalité. Donc, j'invite vraiment nos concitoyens à prendre des informations auprès du ministère de la Construction avant de s'inscrire.
Est-ce qu'il existe auprès du ministère une cellule spéciale?
Oui, nous avons une cellule, c'est la Direction Générale du Logement et du Cadre de Vie, qui est chargée de l'agrément des promoteurs ainsi que de l'agrément des programmes. Donc c'est aussi simple. Okay. Ils sont connus, ils sont à la tour D. Ils sont logés au 7e et 8e de la tour D. Donc il suffit de se rendre. Et puis nous avons des numéros WhatsApp, nous avons des plateformes sur lesquelles toute la population peut avoir des informations concernant ces sujets-là.
Alors, avant de terminer cet entretien avec vous, Monsieur le DG, est-ce que vous avez un rappel à donner à nos auditeurs?
Je voudrais rappeler aux auditeurs, à tous ceux qui veulent initier des projets de construction, vraiment de faire recours aux professionnels. C'est toujours avec peine que nous parlons d'effondrement, que nous parlons de blessés, que nous parlons de perte en vie humaine. C'est vrai! De 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a une régression du nombre d'effondrements. Parce qu'en 2020, il y a eu 11, 2021, il y a eu 2, 2022, il y a eu 3. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à 3. Bon, c'est vrai qu'il y a une régression, mais nous, notre objectif, c'est d'arriver à zéro effondrement. Pour arriver à zéro effondrement, il faut qu'on évite de construire dans l'anarchie. C'est aussi simple que ça. Pour construire, faire recours aux professionnels, notamment à l'architecte. Et l'architecte va conduire le maître d'ouvrage, va l'assister du début à la fin pour, n'est-ce pas, garantir la qualité, la stabilité de son bâtiment, donc pour le bonheur de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et si vous ne le faites pas, nous serons obligés de plus en plus d'être plus durs, d'être plus fermes à travers les démolitions, à travers les sanctions. Donc j'invite la population à nous aider, à comprendre la nécessité de faire recours aux professionnels vraiment pour construire. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de l'administration, c'est dans l'intérêt de la population, c'est dans l'intérêt de tous. Parce que quand on veut construire, on ne construit pas un bâtiment pour une semaine, pour un mois, pour un an.
Mais pour des années.
On construit un bâtiment pour 100 ans, 200 ans, 300 ans, même plus. Donc on ne peut pas investir 200 millions, 300 millions, 500 millions et refuser de dépenser ne serait-ce que 15, 20 ou 25 millions vraiment pour l'ensemble des études, pour payer l'ensemble des professionnels qui vont vous garantir la sécurité, le voisinage, la stabilité de votre bâtiment. Ça n'a pas de sens.
Monsieur Messou Amessou Augustin, je vous remercie d'être passé dans nos studios pour aborder ces préoccupations liées au domaine de l'immobilier. l'immobilier en Côte d'Ivoire.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme.